Passé présent à l'émission historique de Radio Judaïka avec deux sujets aujourd'hui, deux sujets très différents l'un de l'autre. Nous parlerons dans la seconde partie de l'émission de patrimoine et d'histoire à Schiltigheim. Et pour nous en parler, André Buschmann, adjointe au maire en charge du patrimoine, mais aussi du tourisme et de bien d'autres choses. La première partie de l'émission sera beaucoup plus musicale puisqu'elle porte sur les 120 ans d'une institution strasbourgeoise, l'orchestre symphonique La Philharmonie, à propos d'un livre qui vient de sortir aux éditions Bastion, signé Michel Schmitt, les 120 ans de l'orchestre symphonique La Philharmonie. Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la musique. On a déjà eu le plaisir de vous accueillir ici pour d'autres publications portant sur l'histoire de la musique en Alsace. Vous vous intéressez aujourd'hui à une monographie consacrée donc à cette institution qui naît au tournant du XXe siècle, dans un contexte tout à fait singulier. Strasbourg est en ébullition culturelle et il y a une sorte de floraison de sociétés musicales, disons depuis les années 1860.
Exact. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de sociétés musicales, autant instrumentales que chorales. Alors, à vrai dire, ça avait commencé un peu dès 1850, mais il y a eu une période très importante en termes de fondation de sociétés musicales entre 1860 et 1910 à peu près.
Et donc c'est la fin du Second Empire en France. Exactement. Et puis ensuite, c'est la période impériale allemande,
oui,
celle du Reichsland.
Tout à fait ça. Alors, la première période, l'éclosion des sociétés musicales de la première période s'explique évidemment par tout ce qui a été fait au niveau de différentes régions françaises, au niveau de l'éclosion du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Suite à cela, un certain nombre de fanfares et d'harmonies ont été créées, soit des harmonies d'entreprise, soit des harmonies associatives dans des clubs sportifs ou des associations diverses. Et puis, il y a une seconde éclosion d'une certaine façon, à partir des années 1872-75, particulièrement en Alsace, qui d'une certaine façon, ces fondations sont liées à une réaction par rapport à l'administration allemande.
Alors il y a un personnage qui émerge, c'est Franz Stockhausen, qui est directeur du conservatoire de musique, qui s'installe à l'époque allemande dans le bâtiment de l'Aubette, reconstruit après la tragédie du siège de 1870, et qui est par ailleurs le chef de l'orchestre municipal.
Oui, alors Franz Stockhausen a été un personnage très très important dans la vie musicale strasbourgeoise en général, et a effectivement milité pour faire écouter de la musique autant de compositeurs allemands que de compositeurs français. C'est à lui que l'on doit la création de l'orchestre municipal, puisque il avait eu l'impression que si la municipalité de Strasbourg, la commune de Strasbourg ne réagissait pas par rapport à la création d'un orchestre, les Allemands allaient imposer une formation, et à partir de là, ben évidemment, les choses auraient été différentes. Donc il a beaucoup milité en ce sens-là, et il a obtenu gain de cause. Il a par ailleurs, en tant que directeur de conservatoire, développé l'enseignement musical en créant notamment des classes de formation musicale ouvertes aux femmes.
André Buschmann, Schiltigheim est aussi concerné par cette ébullition culturelle à la fin du XIXe siècle, et en particulier cette ébullition musicale.
Alors à Schiltigheim, il y avait effectivement énormément de sociétés. Comme vous le savez, Schiltigheim était une ville qui a connu un monde ouvrier très 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 dynamique, à la fois dans les associations sportives, dans les associations musicales, dans les associations politiques. Je voudrais quand même rappeler qu'il y avait certains bistrots qui étaient des bistrots plutôt de gauche, plutôt de droite, que ce mouvement ouvrier chiliquois était, comme le reste du mouvement ouvrier en Alsace, en contact avec le mouvement ouvrier allemand, puisqu'il faisait le tour de l'Allemagne en tant que, pour devenir compagnon. Donc, ils rencontraient leurs homologues à Munich, à Berlin, à Hambourg. Et ça, ça a beaucoup apporté aussi. Même si d'un côté, il y a effectivement la puissance de l'État, mais vous avez aussi cette grande force qui naissait du mouvement international socialiste.
Michel Schmitt, la Philharmonie naît en 1900 à l'initiative d'un peintre portraitiste. François Schell, un mot peut-être pour situer ce personnage ?
Alors François Schell est effectivement un artiste, puisqu'il est, peint, il est artiste plasticien, mais il est aussi très bon musicien. Et il fait de la musique de chambre avec un certain nombre d'amis. Et un jour, il a l'idée de vouloir former une formation plus importante pour pouvoir jouer un répertoire autre que le répertoire de musique de chambre. Et c'est ainsi que de plusieurs amis complémentaires se sont rajoutés à leur quatuor, et de fil en aiguille, c'est devenu une formation importante. Alors, le premier pas a été franchi lors d'une première répétition en décembre 1899, mais la société en elle-même, du point de vue juridique, a été créée en 1900, et c'est à partir du début janvier-février 1900, quand dans le milieu musical strasbourgeois aura été donnée l'information comme quoi Guillaume Riff allait diriger cette nouvelle formation, un certain nombre de musiciens se sont ralliés évidemment à cette formation de début pour arriver à faire un orchestre d'une quarantaine, 45 personnes dès 1900.
Alors Guillaume Riff sera chef de cet orchestre durant deux décennies. C'est le 9 février 1901 que le premier concert de la Philharmonie est donné à l'Aubette.
C'est exact. Guillaume Riff était un personnage très connu dans la vie musicale strasbourgeoise, puisqu'il est lui-même professeur au conservatoire à ce moment-là, avait déjà derrière lui une grande carrière de concertiste, notamment dans les opéras allemands, et lui donne le premier concert à l'Aubette, sa salle mythique de l'époque. Et pour que ce concert, comme c'était le premier, se passe le mieux possible, ils ont d'une part interprété certaines œuvres en tant qu'orchestre, mais ils ont aussi invité dès ce moment-là une artiste, une cantatrice, et c'est quelque chose qui va se répéter de décennie en décennie.
Le lieu qui va être le lieu de référence de la Philharmonie, c'est le Palais des Fêtes. Le Palais des Fêtes, qui est inauguré en 1903, ouais. et qui, l'année suivante, va devenir ce lieu repère de la Philharmonie. C'est là que la Philharmonie donnera ses trois concerts annuels d'obligation.
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avant l'ouverture du Palais des Fêtes, Strasbourg avait des salles qui contenaient au maximum 400-500 personnes. Il y avait évidemment l'Aubette, il y avait la salle de la Réunion des Arts, et il fallait, par rapport à ce que représentait Strasbourg sur le plan culturel à ce moment-là, quand même une salle beaucoup plus importante. Alors certes, il y avait également depuis 1901 le grand restaurant de l'Orangerie, la grande salle du restaurant de l'Orangerie.
Mais cher à Auguste Michel, exact, dont on parlera dans un instant avec André Buchmann.
Salle et terrasse du restaurant aussi, où ont été donnés énormément de concerts, mais qui ne pouvaient accueillir que entre 800 et 900 personnes. Et donc il fallait une salle plus importante, et à partir du moment effectivement où la Philharmonie joue au Palais des Fêtes, ils vont régulièrement jusqu'en 2016, au moment où la municipalité actuelle a commencé à faire des travaux, ils ont donné régulièrement trois concerts statutaires. En général, en décembre, mars et juin.
Nous allons revenir avec vous, Michel Schmitt, sur l'histoire de la Philharmonie dans un instant, mais nous allons marquer une première pause musicale. J'ai choisi la musique classique, bien évidemment, pour honorer cette époque et cet ensemble de la Philharmonie. Nous commençons par l'interprétation des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par le grand Glenn Gould, qui a sublimé cette composition. Glenn Gould au piano, pour notre plus grand plaisir. Thank you. Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka avec Michel Schmitt pour les 120 ans de l'orchestre symphonique La Philharmonie, titre de l'ouvrage que vous publiez aux éditions Bastian. Nous arrivons à la Première Guerre mondiale et là, l'orchestre met entre parenthèses ses activités. Oui, jusqu'en 1919.
Voilà, l'orchestre, comme beaucoup de sociétés strasbourgeoises à ce moment-là, sont dans l'obligation de s'arrêter de fonctionner. Sont aussi obligés de cacher ce qui était leur emblème, le fanion, le drapeau, de cacher un peu les partitions. Mais enfin, ceci étant, sur le plan musical, les choses ne s'aggravent pas. La Philharmonie va avoir quelques pertes humaines, quand même durant la guerre, mais ils vont pouvoir reprendre en 1919 et le grand retour de Guillaume Riff avec son orchestre se fera au moment du grand concert pour l'inauguration de l'université.
Et alors l'année suivante, il transmet la baguette à un nouveau chef, René Montfeuillard.
Oui, alors Guillaume Riff a été appelé par... il était professeur de formation musicale au Conservatoire, enfin à l'époque on disait de solfège, et Jacques Perrot a fait appel à lui pour lui demander d'inspecter l'ensemble des classes au Conservatoire et de devenir inspecteur de l'orchestre municipal. Et il s'occupait notamment à ce moment-là des concerts d'été. Comme c'était un monsieur d'un âge certain, qu'il avait également quelques problèmes de santé... il a fait un choix et il a demandé à être remplacé à la Philharmonie. Et effectivement, René Montfeuillard, qui est un musicien qui est venu sur Strasbourg pour fonder l'orchestre de la radio de Strasbourg, puisqu'il fait partie des membres fondateurs de cet orchestre.
Alors, il vient de l'orchestre Colonne, qui est une institution éminente.
Alors, René Montfeuillard est en Lotois et il a fait ses études à Paris. Un très très bon instrumentiste et a effectivement joué dans la grande formation, dont le concert Colonne et l'orchestre de l'Opéra. Et il fait le choix de venir sur Strasbourg, puisque le conservatoire de Strasbourg recrute des professeurs d'origine française, puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là, tous les professeurs qui étaient d'origine
allemande... Fait leur valise.
Sont, voilà.
Et, sommés de faire leur valise.
C'est une formule aimable.
C'est très aimable, oui.
Ils ont une situation beaucoup plus dramatique.
Ils ont été mis à la porte.
Enfin, certains d'entre eux, quand même, sont déjà partis dès 1917-18, mais enfin bon, les choses ne se sont pas forcément passé le mieux possible, c'est une certitude. Et puis René Montfeuillard doit également jouer à l'orchestre de la radio de Strasbourg et prend donc la relève de Guillaume Riff. Ça va être une époque très florissante pour la Philharmonie, puisque de 1920 à 1939, René Montfeuillard va connaître de grands succès. L'effectif de l'orchestre va être de plus en plus important pour arriver dans les années 1934-35 à pratiquement 120 musiciens.
Formation importante.
C'est-à-dire que là, on est dans une c'est l'effectif d'une formation professionnelle. Tous ces musiciens étaient des personnes qui avaient une formation d'instrumentiste très sérieuse. La plupart d'entre eux étaient élèves au conservatoire, mais exerçaient une profession principale à côté. Donc, ce n'étaient pas des professionnels en tant que musiciens. De temps à autre, certains professionnels venaient les rejoindre, autant de musiciens de l'orchestre de la radio que de l'orchestre municipal.
1926, date importante, la Philharmonie se produit à Paris.
Oui, alors, les Alsaciens connaissent un peu l'histoire mouvementée qu'il y a eu par rapport à l'Alsace à partir de 1919 et la situation française sur le plan économique dans les années 25-26 n'est pas des meilleures. Et donc il y a un journal parisien qui organise un grand concert dont le titre c'est « Sauvons le franc pour sauver le franc ». Et comme la Philharmonie avait, avant 1914, toujours fait part de son attachement à la culture française et à la musique française en particulier, et que cette société, avec à la tête René Montfeuillard, commence à être connue au-delà des Vosges, la Philharmonie est invitée à Paris pour se produire lors de ce concert à l'Opéra. et ils auront des droits à des critiques très très élogieuses dans tous les journaux parisiens durant pratiquement 15 jours, 3 semaines après le concert.
Nous arrivons à la Seconde Guerre mondiale, la période nazie. L'Alsace s'est intégrée dans le Troisième Reich. Que se passe-t-il pour la Philharmonie ?
Voilà, les choses vont être beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient durant la Première Guerre mondiale, puisque, comme nous l'avons dit, durant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas joué. Ben, ils vont être obligés de s'adapter au régime. Ils avaient deux choix. Soit ils arrêtaient carrément de jouer, refusaient de jouer, et ils risquaient évidemment non seulement que la société soit dissoute, mais... ils avaient pratiquement une certitude de subir un certain nombre de conséquences relativement graves s'ils optaient pour cette solution-là. Donc ils ont plutôt opté pour une solution mitigée, c'est-à-dire s'adapter petit à petit à ce qui leur a été demandé par l'administration allemande et notamment par le responsable culturel de Karlsruhe, puisque tout se passait à ce moment-là pour l'Alsace en termes culturels à Karlsruhe, et ils pourront rejouer à partir de 1942, évidemment dans des conditions totalement différentes de ce qu'ils connaissaient auparavant, puisqu'ils ne peuvent pas interpréter le répertoire qu'ils souhaitent interpréter. Ils ne pourront jouer pratiquement que de la musique allemande, et encore de la musique qui leur était imposée, c'est-à-dire que le choix des œuvres à interpréter sont imposés par le Reich Kammermusik. Et ils vont devoir attendre quand même entre 39 et 42 pour pouvoir se produire, puisque pour un certain nombre de raisons administratives et de difficultés politiques en règle générale, les choses traînent, et on les fait traîner volontairement aussi, parce qu'on partait évidemment de l'idée qu'ils vont se rétracter, et comme ça, le champ sera libre. Voilà, donc entre 42 et 44, ils vont donner de temps à autre des concerts de musique de chambre à l'Aubette, des concerts au Palais des Fêtes, mais également seront dans l'obligation évidemment de jouer pour le parti nazi.
Une ère nouvelle commence à la Libération, avec un événement important en 1950, c'est le 50e anniversaire de l'orchestre.
Alors, en 1945, l'ancien président Emil Streisgut, qui avait été dans les camps, rentre à Strasbourg relativement affaibli et souhaite ne plus avoir la responsabilité de la présidence de la Philharmonie. C'est donc un autre musicien, Jean Stigler, qui à l'époque était un personnage politique, économique très connu, puisqu'il était à la municipalité de Strasbourg. Il était conseiller général et il était président de la chambre syndicale des serruriers à l'époque. Il va prendre la présidence de la Philharmonie, comme c'est un personnage qui a beaucoup de contacts avec la société strasbourgeoise et qu'il connaît personnellement Charles Münch, qui lui-même avait déjà joué à la Philharmonie du temps où Charles Münch était encore à Strasbourg, avant qu'il ne parte en Allemagne. Il va demander à Charles Münch s'il accepte de venir diriger la Philharmonie lors du concert du 50e anniversaire. Charles Münch accepte. Il dirige le concerto pour orgue de Saint-Saëns, qui est un compositeur que la Philharmonie a souvent interprété.
Et Charles Münch, pour situer, c'est l'un des tout grands chefs d'orchestre de l'époque.
Alors Charles Münch est évidemment l'un des tout grands chefs d'orchestre de l'époque.
Il sera à la tête de l'orchestre symphonique de Boston.
De Boston, et il fera le voyage de Boston à Strasbourg pour diriger la Philharmonie. Il venait assez régulièrement à Strasbourg, puisque à partir de 1947-48, il vient régulièrement pour diriger un concert ou deux concerts au Festival de Strasbourg. Et donc Charles Münch est un personnage hyper connu par les Ménoëns strasbourgeois, et le concert au Palais des Fêtes va laisser des souvenirs inoubliables dans l'esprit des musiciens, bien entendu, mais aussi du public. Et c'est un concert, donc en première partie, c'est le chef d'orchestre de la Philharmonie, Philippe Acker, qui lui-même était professeur de solfège au conservatoire, qui dirige à Berlioz, entre autres, et puis Charles Münch, qui, en seconde partie, joue ce concerto pour orgue. Charles Münch avait prévu de se faire accompagner par Ginette Neveu, la grande violoniste. Malheureusement, Ginette Neveu, quelques temps auparavant, est décédée dans l'accident d'avion. Et donc, la Philharmonie n'a pas eu la joie de pouvoir accompagner cette grande soliste de l'époque.
Autre événement important, plus près de nous, bien évidemment, c'est le centenaire en l'an 2000.
Alors là, on saute effectivement plusieurs décennies. Le centenaire de l'an 2000, qui est donné au Palais des Fêtes aussi. Alors là, on a changé de président et changé de chef d'orchestre, puisque le président, c'est Frédéric Benman, qui est à la tête de la Philharmonie depuis 1970, qui a fait un travail considérable. C'est avec Jean Stiegler et l'actuel président Jérôme Metter, les trois présidents qui ont marqué cette société. Il a entre autres su arriver à faire en sorte que les années 70-80, qui étaient difficiles pour les orchestres amateurs, au bon sens du terme, parce qu'il y avait évidemment un certain nombre de phénomènes sociaux et économiques qui faisaient que les jeunes ne s'intéressaient plus tellement à la pratique collective, et encore moins à l'orchestre symphonique, on s'intéressait plutôt à la musique de rock, au jazz, etc. Le centenaire est également un concert, est également une période qui permet à Gérard Foltz, qui est à ce moment-là le chef d'orchestre de la Philharmonie, de présenter un orchestre qui malheureusement est un peu amputé en termes d'effectifs, puisque suite aux difficultés que j'évoquais, l'orchestre a eu durant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, quelques difficultés pour avoir à nouveau son effectif qu'on connaissait dans les années 50 ou avant. Mais c'est un grand concert, et c'est un concert qui est évidemment resté dans la mémoire des mélomanes strasbourgeois, d'autant plus que pour ce concert, la Philharmonie a eu l'idée de demander à deux anciens chefs de venir diriger une ou deux œuvres.
Que représente aujourd'hui, en 2020, la Philharmonie ?
Alors la Philharmonie est aujourd'hui un des rares orchestres symphoniques non professionnels, puisqu'il n'y a que l'orchestre universitaire, et puis l'orchestre des jeunes, mais encore que l'orchestre des jeunes se produit davantage sous forme d'une harmonie que de l'orchestre symphonique. C'est un orchestre qui aujourd'hui représente d'une certaine façon le cosmopolitisme strasbourgeois. Cette formation est composée de beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs que d'Alsace, qui sont venues en Alsace soit pour y faire leurs études, soit pour y travailler. Certains d'entre eux ont été formés dans des capitales étrangères, autant à Londres qu'à Moscou, que dans des villes allemandes. Ce sont tous des musiciennes et des musiciens qui ont une formation très pointue. Il y a parmi eux quelques professionnels de la musique, mais qui ne sont pas des instrumentistes professionnels, qui sont des professeurs de musique ou des directeurs d'écoles de musique. C'est une formation qui aujourd'hui est très connue du milieu musical strasbourgeois et qui va fêter ses 120 ans en ayant su tourner des pages sans se renier, mais tout en développant tout à fait autre chose, puisque depuis une quinzaine d'années, outre les concerts de musique purement symphonique, les concerts statutaires, ils interprètent aussi, notamment au courant du mois de janvier, mais également à d'autres moments, la musique symphonique légère. Et là, alors actuellement, la Philharmonie est dirigée par Étienne Bardon, mais pour toutes les prestations de musique symphonique légère, l'orchestre est dirigé par Rémi Abraham, qui est un des cornistes de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Merci beaucoup, Michel Schmitt. Je rappelle le titre du livre que vous publiez aux éditions Bastion, « Les 120 ans de l'Orchestre Symphonique, la Philharmonie ». Nous allons marquer une nouvelle pause musicale et ensuite nous retrouvons André Buschmann pour nous parler du patrimoine et de l'histoire contemporaine de Schiltigheim, qui est à l'honneur actuellement à travers une très belle exposition. La valse de l'empereur, Johann Strauss, nous écoutons l'interprétation de l'orchestre philharmonique de Vienne.
Œuvre souvent jouée par la Philharmonie.
C'est pour ça que je l'ai choisi, mon cher Michel. Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Nous allons parler histoire et patrimoine à propos de Schiltigheim. Schiltigheim entre 1860 et 1939 avec André Buschmann, qui est maire adjointe de Schiltigheim en charge du patrimoine et du tourisme. Très belle exposition qui est proposée à la ferme Link jusqu'au 29 mars prochain. Un mot déjà, André, sur cette ferme Link, qui est un élément important du patrimoine chilicois.
Alors la ferme Link était effectivement une très belle maison, qui était autrefois une ferme comme son nom le dit. Et M. Link était à la fois charron, paysan, mais aussi musicien. Il était protestant et souvent les protestants étaient également musiciens. C'était un trompettiste. Donc, il jouait de la trompette, il donnait des cours de trompette et il composait. Il était aussi compositeur. Et des morceaux de lui sont actuellement encore joués par des orchestres alsaciens qui se produisent régulièrement. Donc, la ferme Link, c'est ça. Elle a été, à un moment, elle a été rachetée par la ville, heureusement, parce que sinon, elle était détruite. C'est une ferme alsacienne.
Elle a abrité
Et elle a abrité le service culturel de la ville de Schiltigheim jusqu'à il y a 2 ans. Donc beaucoup de gens la connaissent pour ça. Le service culturel a déménagé rue principale dans d'autres belles maisons patrimoniales. Alors depuis que l'équipe avec Daniel Dambach est aux affaires, on essaye de mettre en avant quelque chose qui est fondamental, c'est le patrimoine. Pas le patrimoine pour se plonger dans le passé, mais le patrimoine parce qu'il faut redonner la fierté aux gens par rapport à leur lieu de vie, par rapport à leur territoire. Schiltigheim, Bischheimenheim, entre la Strasbourg bourgeoise et les villages, était un cadre extraordinaire pour un développement industriel. Donc les grands patrons se sont installés là, en partant de la bière, mais aussi tout le reste, les tonneaux, la fabrication de verre, etc., etc. C'était un patronat paternaliste. Je ne développe pas, je pense que chacun sait ce que c'est, qui était très innovant et qui a beaucoup fait travailler des ingénieurs. Et notamment, après 1870, après la Commune, Kiri, qui était une des entreprises de Schiltigheim, a accueilli des ingénieurs de la Commune, qui venaient se réfugier donc, en Allemagne, puisqu'ils étaient poursuivis, persécutés en France. Ils ont été poursuivis ensuite par la police. Enfin, la France a demandé à ce qu'ils soient extradés. Finalement, ils n'ont pas été extradés parce qu'il y avait une levée de bouclier du patronat local, ce qui est quand même extraordinaire. Et ces ingénieurs se sont réfugiés en Suisse. Donc là, il y a eu un apport extraordinaire et il y a eu un mouvement de création, d'innovation tout à fait remarquable. Par exemple, le froid mécanique a été inventé par Kiri à Schiltigheim, qui ensuite a été utilisé lorsqu'on a construit des patinoires, etc., etc. Et lié à tout cela aussi, bien sûr, un grand nombre d'ouvriers. Schiltigheim a doublé sa population en 10 ans, ce qui est inimaginable. Et ces ouvriers étaient, bien sûr, travaillés dans les usines, mais en même temps avaient un nombre très important d'activités sociales. Et ces activités sociales se passaient principalement dans les bistrots. Donc chaque groupe politique, religieux, culturel, parce qu'il y avait aussi toutes les harmonies de musicales, et puis aussi les clubs sportifs, se réunissaient dans les bistrots. Et le bistrot était aussi un lieu donc, de discussion, de débat, d'échange d'idées et puis de formation politique. Et Schiltigheim a été ça. Et après la Deuxième Guerre, avec la déprise, etc., etc., tout ça a été oublié. Et notre idée était justement, on va montrer ce qui s'est passé pour que les gens sachent ce qui s'est passé. Et Armand Peter, qui a longtemps travaillé à la ville de Schiltigheim...
Armand Peter est le commissaire de cette exposition.
Armand Peter, qui a...
lui rendre hommage parce qu'il a fait un travail fantastique de valorisation du patrimoine et surtout de narration de l'histoire de Schiltigheim.
Alors, il a fait ce travail pendant toute la période où il travaillait pour la mairie de Schiltigheim. Et là, il est à la retraite, mais nous lui avons permis de réaliser cette exposition de laquelle il rêvait depuis très longtemps, qui doit être le début de la création d'une maison du patrimoine, pas forcément une maison comme ça, mais quelque chose lié au patrimoine. Et la période qu'il a choisi de nous présenter, c'est entre 1860, donc c'est le début de l'ère industrielle, jusqu'en 1939. On a arrêté en 39, puisque 39, c'était le premier choc avec l'évacuation de Strasbourg, de Schiltigheim, etc., etc., dans ce plan stratégique de l'état-major français. Cette exposition est une exposition qui attire beaucoup de monde. Elle est ouverte le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Et les gens ne viennent pas 3 secondes, ils viennent 2 heures.
Il faut 2 heures pour bien la visiter.
Mais il y a un échange entre ce qui est exposé, ce qui est raconté, et chaque personne viennent des ouvriers qui connaissaient encore ces usines, des descendants d'ouvriers, des familles qui viennent, qui sont depuis récemment à Chiltica, mais qui veulent découvrir. Et il y a pas mal de Strasbourgeois qui arrivent. Par exemple, nous avons accueilli aussi les amis du Vieux Strasbourg, puisque les familles, c'était les mêmes familles, que ce soit les familles ouvrières ou les familles bourgeoises. Les familles bourgeoises pouvaient très bien avoir des maisons à Strasbourg, et puis également des installations économiques à Chiltica. Et elles viennent aussi avec plaisir.
Alors, le grand mérite de cette exposition, qui est très didactique et qui s'appuie sur une iconographie tout à fait remarquable, c'est d'une part de retracer la mutation d'un bourg périurbain, qui est la situation de Schiltigheim, avec un village, un peu plus qu'un village, quand même 3400 habitants en 1860, à une ville aux côtés de la métropole qu'est Strasbourg en 1939. Et puis c'est aussi d'insister sur la diversité des activités économiques, parce que dans l'inconscient collectif, Schiltigheim égale brasserie. Et c'est pas aussi vrai que cela, loin s'en faut, et c'est ce que démontre cette exposition.
C'est égal brasserie, mais aussi il fallait fabriquer du verre, il fallait fabriquer les tonneaux, et puis pour arriver à un autre sujet qu'on veut aborder aujourd'hui, il y a bien sûr les foie gras. Donc il y a les foie gras qui sont toujours présents sur le territoire avec Feil-Elsner, et les foie gras étaient une production importante qui a été portée par un des patron de bistrot, qui était la Maison Rouge. Et cette Maison Rouge était un lieu de rencontre régulière.
Malheureusement détruite.
Et Auguste Michel était un homme très ingénieux qui avait beaucoup d'idées, donc à la fois un patron. Il a mis en place une usine de fabrication de foie gras, mais avec une approche sociale. Ça veut dire qu'il y avait de la lumière sommitale et les ouvriers ne travaillaient pas dans le noir ou dans la lumière artificielle. Ils avaient la possibilité d'être en lumière naturelle. C'était aussi un homme qui adorait la technologie. Il avait bien sûr une Matisse. Il était très copain avec les fabricants des voitures Matisse. Et il avait une passion pour les arts, de la bouche et les arts en général.
Alors, il était le propriétaire du restaurant de l'Orangerie que Michel Schmitt mentionnait précédemment. Il habitait dans un hôtel particulier,
un petit château,
face à l'ancien château de Schiltigheim. Malheureusement, là encore, cette propriété n'existe plus aujourd'hui. Hein. On peut s'interroger sur la question de la préservation du patrimoine par les municipalités antérieures. C'est un peu dommage. Il faut voir comment on peut faire revivre ce patrimoine aujourd'hui. Et Auguste Michel organisait régulièrement chez lui des dîners qui portent le nom de Kunsttafel, autrement dit la marmite des arts. Et là se trouvait toute l'intelligence alsacienne et française.
C'est vrai.
Parce qu'il était francophile.
C'était un cercle francophile qui était en relation avec le Cercle de Saint-Léonard. Et il recevait bien sûr régulièrement les artistes présents à Saint-Léonard. Et la naissance de l'Alsace, de l'alsacianité, du mouvement du musée alsacien, connaît aussi un peu ses racines au Kunsttafel. Alors le Kunsttafel, effectivement, c'était des rencontres particulièrement copieuses, avec des menus particulièrement
c'était
copieux.
Le menu avec, du début, de la fin du 19e.
C'était le menu de la fin du 19e. Et donc était présent.
Vous avez sans doute un menu avec vous, André, peut-être.
J'ai un menu, par exemple.
Donnez lecture à nos auditeurs.
Alors, comme c'était un cercle francophile, les menus étaient rédigés en français. Et on accueillait, bien sûr, les personnes d'ailleurs, avec des propositions de plats alsaciens pour leur faire découvrir la richesse de la région.
Alors, amis véganes et autres adeptes des menus diététiques, s'abstenir, bien évidemment.
S'abstenir. Et il demandait à ses amis peintres de dessiner les menus. Donc les menus sont tous des œuvres d'art. Et nous avons en grande partie à la mairie de Schiltigheim. Alors là, je vais vous lire le menu du 4 février 1902. C'est le jour où était invité Coquelin l'aîné, que vous connaissez tous. Coquelin
grand acteur de théâtre.
Qui est connu pour Cyrano.
Et c'est au retour
Cyrano,
de l'enterrement Cyrano. De Coquelin l'aîné que décède Auguste Michel.
Exactement. Donc c'est l'artiste qui a pour la première fois joué Cyrano de Bergerac. Donc, consommé bourgeois à l'alsacienne. Truite des Vosges bleues, sauce crème et vin rouge. Faisant des îles du Rhin. choucroute de Strasbourg, suprême de, tout ça c'est chaque fois un plat, hein, suprême de foie gras de Schiltigheim, mousse aux fraises du Heidenbruch, Kuhklopf, fromage de Münster et d'Orbey, fruits du pays, dessert paysan. Et puis nous avons aussi bien sûr la carte des vins, du Volksheim blanc, du Westhofen rosé, du Marlenheim rouge en carafe, du Riesling de Rickweir, de l'Otrott 1893, du Heiligenstein Klevner et du gentil Ribeauvillé 1865. Voici un menu, et je pense que c'est principalement des messieurs qui étaient autour de la table. En tout cas, les photos que nous avons de ces grands dîners nous montraient malheureusement
que des
messieurs.
Il y a eu quelques dames invitées.
Il y a eu des dames invitées, mais pas au dîner, pas au Kunsthofer. Les dames qui étaient invitées, c'était à d'autres menus, d'autres repas, dont Sarah Bernard était aussi, bien sûr, une des invitées d'Auguste Michel.
Alors, Michel Schmitt, ça vous fait savourer
Oui, bien sûr, mais...
De plaisir
Tout à fait, mais je peux faire un parallèle avec la Philharmonie, puisque la Philharmonie avait l'habitude de fêter la Sainte-Cécile, et j'ai également dans l'ouvrage l'une ou l'autre anecdote à ce sujet-là, et notamment la composition des menus. Ce furent de grands mangeurs et de bons vivants. Juste une précision par rapport à ces soirées de Kunsthafen, il y a des compositeurs alsaciens qui y ont participé, dont notamment Marie-José Herb.
Bien sûr, et Stotzkopf était mort,
oui, bien sûr.
Schnug en faisait partie, etc. C'est vrai.
Il y a eu un cercle d'artistes formés de musiciens, d'écrivains, de poètes,
exactement,
de dessinateurs,
ouais,
qui s'est retrouvé là, ouais, et qui, d'une certaine façon, si je puis le dire, ont créé le monde à leur façon.
Oui, mais aussi du point de vue industriel, puisque là, par exemple, lui, c'était un très grand industriel qui a été aussi souvent invité à Paris comme expert. Et il livrait toutes les cours d'Europe. J'ai oublié de le préciser. Il était...
Oui, les foie gras Auguste Michel étaient particulièrement honorés.
Étaient particulièrement appréciés, oui.
André, l'exposition est accompagnée de conférences.
Alors nous organisons bien sûr depuis quelque temps des conférences régulières, tous les deux mois. Ces conférences ont lieu dans la salle du conseil de la mairie. La dernière était... celle de l'Armand Péter le 16 janvier sur les mémoires de Schiltigheim. Et la prochaine a lieu le 13 février à 19h à la mairie. Et cette fois-ci, nous accueillons Arnaud Weber. Arnaud Weber a écrit un ouvrage, enfin il a écrit sa thèse sur Auguste Michel. Et il nous fait l'honneur de venir d'Amiens pour nous faire une présentation. Et toujours, nous invitons tout le monde à y participer. C'est gratuit. Mais c'est quand même mieux de s'inscrire pour qu'ensuite on puisse relancer les personnes et les informer s'il y a un problème ou bien les inviter à la conférence suivante.
Alors je rappelle l'intitulé de cette exposition, Mémoire au pluriel de Schiltigheim, 1860-1939. Cette exposition est visible jusqu'au 29 mars 2020 à la ferme Link, 22 rue d'Adelshofen, c'est à Schiltigheim et c'est ouvert les samedis et les dimanches de 14h à 18h. Y a-t-il d'autres projets de valorisation du patrimoine chiliquois qui sont dans les tuyaux?
Il y a beaucoup de projets, mais je suis un petit peu en période de réserve électorale, donc
on va s'abstenir.
Je ne vais pas répondre sur certaines questions.
Mais ça vous obligera à revenir, ma chère André.
Ça m'obligera à revenir, et puis je voulais dire aussi, je voulais vous dire aussi que probablement l'exposition va continuer après la date de fin qui est annoncée.
Merci beaucoup, merci à Michel Schmitt pour cette présentation de la Philharmonie.
Merci
Michel,
vous
êtes toujours le bienvenu dans cette émission, donc n'hésitez pas à frapper à la porte, on vous ouvrira.
Je n'hésiterai point.
Nous allons nous séparer en musique après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. C'est le ballet égyptien d'Alexandre Louis Guigny par le Royal Philharmonic Orchestra que nous allons écouter ensemble. Thank you.